Bonsoir, merci d'être venu pour cette rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information en partenariat avec les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Je remercie tous nos invités et je laisse tout de suite la parole à Richard Reichmann qui va nous présenter cette soirée. Merci.
Merci, bonsoir. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir animer cette soirée autour des rêves, et je dirais juste quelques mots avant de laisser la parole à nos invités. Je voudrais d'abord remarquer que cette question est une question très importante, les rêves, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on dort, quand on n'est pas complètement sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on pense, qu'on a perdu un tout petit peu le contrôle, qu'est-ce qui se passe dans cet esprit qui pourrait soudainement nous échapper, parfois nous revenir insidieusement, pas complètement, et toujours de façon énigmatique. Alors bien sûr, la connaissance aujourd'hui a énormément avancé, on sait de plus en plus de choses, j'en discutais il n'y a pas longtemps avec Jacqueline Carroix, qui m'expliquait que les neurosciences avaient fait encore de plus en plus de progrès. Et pourtant, malgré tous ces progrès, il reste une part d'énigmes. Il reste une part d'énigmes autour de cela, au sens même où, depuis des années, un savoir s'est construit, des gens ont réfléchi, des gens ont essayé de rendre cela un petit peu moins opaque. Alors, moi, j'avais, quand on m'a demandé d'intervenir, j'avais une idée comme ça, un peu préconçue. Au fond, depuis Sigmund Freud, on sait tout. Voilà, Sigmund Freud, il a découvert la réalité dernière des rêves. Il en a fait le socle de son interprétation. Et d'une certaine manière, quoi de neuf depuis? En fait, je crois que c'est pas si sûr que cela. Les choses ont l'air d'être beaucoup plus complexes, l'histoire beaucoup plus tourmentée, les connaissances sont sans doute beaucoup plus enracinées dans les cultures du moment, dans les conceptions savantes et profanes du moment, et je trouve que c'est vraiment passionnant aujourd'hui de revenir là-dessus. Alors pour en débattre, eh bien nous avons Jacqueline Carroix, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, historienne de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse, et qui a publié un livre qui est une somme, que je vous conseille vivement, hein, « Nuit savante » aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, dont on va parler. Pierre Pachet, qui est universitaire, écrivain, et qui a publié un ouvrage qui s'appelle « Nuit hautement ». Voilà, Jean. Hautement surveillé ? Étroitement surveillé. Alors, il y a quelques minutes encore, je disais à quel point je trouvais que ce titre était magnifique. Et voilà, mon oubli a fait que je n'arrive pas à me le remémorer. Toujours est-il que j'avais envie tout de suite de poser une première question à Jacqueline Carroix. Cette histoire qu'on sait tout depuis Freud et que c'est Freud qui a tout inventé, c'est complètement vrai ou il y a une part de fiction là-dedans ?
Je crois qu'il y a une part de fiction, hein, dans la mesure où, effectivement, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est retrouver une histoire des nuits savantes. Et vous remarquerez que mon titre s'inspire un peu de celui de Pierre Pachet, c'est-à-dire que je me suis intéressée depuis 1800... Il fallait bien quand même donner une périodisation, comme disent les historiens. Je me suis intéressée donc à l'histoire de savants rêveurs, ce que j'appelle des savants rêveurs, c'est-à-dire des hommes cultivés. C'est des hommes en général, hein, puisque c'est des savants. Et qu'au XIXe siècle, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont une position académique, bien sûr. Donc ce sont des savants qui notent leurs rêves et qui veulent faire science de leurs rêves, tirer de la science de leurs rêves. Et souvent, d'ailleurs, en s'opposant aux superstitions et en disant ce qu'ils appellent les superstitions et en disant les rêves ne sont pas tournés vers l'avenir mais au contraire ils nous renvoient au passé. Donc c'est là vraiment le point de départ. Et donc du coup il m'a paru intéressant de situer Freud dans cette lignée, puisque je vous rappelle que Freud a étudié les rêves en notant ses rêves, pas seulement en notant ses rêves mais aussi par rapport à des patients, mais tout de même aussi en notant ses rêves et en essayant de les analyser. Et je rappelle aussi, et ça on le dit très peu, que Freud se sentait certainement une sorte de découvreur, de novateur, d'explorateur, mais aussi un héritier. Et on le voit bien, quand on lit le premier chapitre de l'interprétation du rêve, que peu de gens lisent parce qu'il est très difficile à lire, puisque au fond, on ne sait plus qui étaient tous ces gens dont il parle, et dont j'essaye de parler un petit peu, eh bien, quand on lit ce premier chapitre, on voit qu'il était extrêmement érudit, qu'il avait presque tout lu de la littérature sur les rêves de son temps depuis 1800, et que c'était un véritable, je dis, érudit germanique. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a été lu, par exemple dans l'entre-deux-guerres en France. On lisait Freud comme une sorte d'érudit qui vous donnait des indications sur tel ou tel auteur. Donc voilà, j'ai voulu refaire cette lignée de savants rêveurs. Alors je me suis, l'une des limitations de mon livre, c'est de m'en être tenue aux Françaises et aux francophones, hein, ceux qui rêvent en français. Mais il y a, je vous rassure, il y a aussi des Suisses et des Belges et des Wallons dans mon livre, des rêveurs Wallons, notamment Joseph Delboeuf, que connaît bien Pierre Pachet. Donc, alors qu'est-ce que font ces hommes? Donc ils notent leurs rêves, ils essayent de s'en souvenir et ils essayent de faire des théories à partir de cela. Et alors pour schématiser beaucoup, je dirais que ils considèrent que leurs rêves peuvent s'expliquer à partir de différents éléments. Alors à partir du cerveau, bien entendu, du corps, à partir des organes génitaux. Il y a une grande importance des rêves érotiques, de la question des rêves érotiques dans cette science des rêves, à partir de sensations extérieures transformées, du style, je ne sais pas, vous, un chat miaule dehors, c'est un rêve d'un genevois, justement. Un chat miaule dehors et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le rêveur rêve qu'il y a un chat qui lui parle. Et puis après, il se réveille et il s'aperçoit que ça n'était qu'un chat qui miaulait. Voilà, donc rêve de chat parlant, qui me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup les chats, voilà, pour tout le dire. Et puis, ce qui est peut-être l'une des choses les plus importantes, c'est que on va essayer d'expliquer les rêves à partir du passé de la veille, donc des éléments, des circonstances de la veille, mais aussi quelquefois à partir d'un passé très lointain, un passé de l'enfance qu'on croyait avoir oublié, puis qu'on retrouve à l'occasion d'un rêve et quelque chose qui étonne, on dit mais c'est pas possible. Je croyais l'avoir oublié, d'un seul coup je le retrouve. Donc c'est en quelque sorte parmi les scénarios les plus fréquents, et vous remarquerez que ces scénarios, on les retrouve dans l'interprétation du rêve. Freud reprend un certain nombre de ces scénarios. Donc ça, c'est vraiment, je crois, un point tout à fait important. Alors un autre thème aussi qu'on voit apparaître souvent, c'est la question du dédoublement du rêveur, c'est-à-dire que le rêveur se projette dans différents personnages et il devient tous les personnages de la scène. En se projetant là-dedans, il est à la fois acteur, spectateur, projectionniste, puisque une des grandes images qui sont utilisées, c'est celle de la lanterne magique, enfin comme une sorte de projection. Donc voilà. Souvent d'ailleurs, à partir de leurs rêves, donc à force de noter ces rêves, on s'en souvient de plus en plus, et certains donc disent qu'ils développent une conscience de rêver à l'intérieur de leurs rêves par intermittence, parfois, souvent, à force d'exercice, et même ont l'impression donc qu'ils peuvent orienter ou diriger leurs rêves. Alors, ce sont des récits qui nous sont donnés, et évidemment, l'historien n'a affaire qu'à des récits et n'a pas affaire aux expériences, si tant est d'ailleurs qu'on puisse se mettre dans la tête d'un rêveur, puisque je vous rappelle que le paradoxe du rêve, évidemment, c'est que c'est un phénomène éminemment privé, et en même temps, c'est un phénomène éminemment social, c'est-à-dire que on le raconte à autrui, on se le raconte, on l'écrit, et au XIXe siècle, on le publie. Donc, avec toute la question d'ailleurs que cela pose évidemment de publier un rêve, ce qui peut être gênant, déplaisant, etc. Et on voit dans la correspondance de Freud avec Fliss, par exemple. Enfin, donc je rappelle que Freud, on a un témoignage sur l'élaboration de l'interprétation du rêve qui est la correspondance avec son ami Fliss. Et donc dans cette correspondance, on voit comment Freud décide de retenir ou non tel ou tel rêve. Et ce n'est, je crois que c'est, on peut évidemment tout de suite parler de censure, mais je crois que c'est plus complexe que ça. C'est aussi quelle image on donne de soi lorsqu'on publie l'un de ses rêves, hein, ce qui n'est pas, on se met en scène d'une certaine manière. Alors, quelquefois, il y a une pratique de l'autodérision, c'est-à-dire qu'on aime souvent, ce qui m'a frappé dans les savants que j'ai pu, comme ça, que j'ai pu étudier d'un point de vue historique, c'est que ce sont des gens qui sont arrivé académiquement. J'ai par exemple dans cette collection de savants rêveurs, il y a 3 professeurs au Collège de France, donc c'est pas rien. Et ces 3 professeurs au Collège de France, on a l'impression qu'ils veulent en quelque sorte lâcher du lest par rapport à leur habit guindé, au sens propre même du mot. Le plus connu d'entre eux, c'est Alfred Maury, donc, qui, au XIXe siècle, tient la place du grand classique européen sur les rêves. Il tient la place de Freud. Non qu'il ait les mêmes théories que Freud, mais il tient un peu ce type de place. Et d'ailleurs, Freud, évidemment, le cite, est amené à le citer beaucoup. Et Alfred Maury explique que c'est intéressant qu'il publie son livre Le sommeil et les rêves, donc au moment où il est devenu membre de l'Institut et où il va devenir professeur au Collège de France. Hein. Et il explique qu'il se sentait assez à l'étroit dans son habit de membre de l'Institut. Il aimait mieux être ce qu'il appelait en déshabillé. Alors en déshabillé, ça veut dire donc en déshabillé, c'est une expression qui renvoie au costume des femmes le matin, donc, mais aussi donc le fait de se montrer dans un état naïf, sans façon, etc. Et il y a une scène où on voit Maury, enfin il se met en scène comme en pantoufles devant son feu et somnolent. Donc on a là toute une pratique de l'auto-observation qui est donc très 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 implantée en Europe et qui situe le rêve donc disons dans un mode de savoir alors entre philosophie et médecine mais aussi dans un savoir amateur. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, Maury, si je prends son exemple, mais on pourrait en donner d'autres, n'est pas considéré comme un spécialiste du sommeil et des rêves. Il n'est ni médecin ni philosophe. Les deux philosophes à l'époque, Maury, c'est 1861, son livre, pour le situer. Donc il n'est ni médecin ni philosophe. Néanmoins, c'est un passionné de ses rêves. Il les note, je crois, pendant 30 ans. Et on a beaucoup d'autres exemples au XIXe siècle aussi d'hommes qui notent leurs rêves au long cours. Alors pas forcément tout le temps, mais qui manifestement font des collections et tirent de leurs collections des anthologies. Et évidemment, à travers cela, donc la question qui se pose, c'est celle de la conscience à l'intérieur du rêve et surtout à la fin du XIXe siècle, la question de l'inconscient et du subconscient. C'est-à-dire que là, on voit apparaître à la fin du XIXe siècle l'idée que peut-être il y aurait des processus inconscients ou subconscients. On pourra entrer dans le détail par la suite, mais qui seraient à l'origine de la formation des rêves. On se pose également la question, et peut-être qu'après je vais laisser la parole éventuellement, on se pose aussi la question de comment raconter les rêves. C'est-à-dire, il y a toute une controverse extrêmement intéressante à la fin du XIXe siècle. Donc, sur au fond, on a là des images fugitives, des images qu'on vit avec une tonalité émotionnelle, des images qui apparaissent, qui disparaissent, qui vous font hésiter au réveil, et comment les raconter, comment en rendre compte. Est-ce que il faut faire un récit construit, ou est-ce qu'au contraire il faut essayer de laisser au rêve tout son décousu? Autre question, Est-ce qu'il faut en parler à l'imparfait ou au présent? Et là, on a manifestement, enfin là, ici, je me réfère à un travail qui a été fait par Jean-Daniel Golu. Donc, on a un infléchissement qui fait que au XIXe siècle, on raconte plutôt ses rêves à l'imparfait et disons, dans la modernité, au XXe siècle, on les raconterait plutôt au présent, par exemple, pour donner cet exemple-là. Donc, vous voyez que autour des rêves se pose toute une série de questions extrêmement, extrêmement importantes. Et je crois que ce qui moi m'est apparu comme finalement la position la plus novatrice. Et aussi la plus critiquable, parce que c'est celle qui a été critiquée concernant Freud, c'est au fond de dire, pour ces savants rêveurs du XIXe siècle, au fond, le rêve reste un peu une énigme. Ils le disent toujours. Et Freud, lui, dit, mais moi je résous l'énigme, je dis que tout rêve, après interprétation, s'avère être la réalisation d'un désir réprimé, refoulé, etc. Et donc c'est sur ce point-là, effectivement, qu'il y a eu débat très tôt, dès l'apparition du livre de Freud, qui a quand même été connu en France un ou deux ans après sa parution, donc il a été daté par l'éditeur de 1900, mais publié fin 1899. Et donc très tôt, beaucoup de savants rêveurs étaient prêts à accepter le fait que beaucoup de rêves étaient la réalisation d'un désir. Mais ils n'étaient pas prêts à accepter que tous les rêves soit la réalisation d'un désir. Et c'est ce point-là qui a fait clivage entre des gens qui pouvaient être plutôt favorables à Freud, comme par exemple Bergson, pour donner l'exemple d'un philosophe célèbre, et puis des gens qui, eux, entraient dans le mouvement psychanalytique. Donc ça, c'est vraiment le premier point de clivage. Alors, une deuxième différence, c'est moins un point de clivage qu'une différence pour le coup. Il me semble que c'est véritablement chez Freud qu'on a la conjonction d'une pratique thérapeutique. J'emploie le terme de thérapeutique au sens de l'époque. Hein. Je ne vais pas chipoter sur psychothérapie, psychanalyse. À l'époque, on parle de psychothérapie ou de thérapie. Hein. Je me situe ici dans l'histoire. Et donc, il conjoint au fond pratique thérapeutique et utilisation des rêves comme médium thérapeutique. Et ça, je crois que c'est assez nouveau. Et c'est comme si il y avait déjà eu des personnes qui avaient, je pense à Delboeuf par exemple, Joseph Delboeuf qui est donc un savant liégeois, savant rêveur que connaît bien Pierre Pachet. Delboeuf a donc analyser ses rêves et à observer ses rêves, et en même temps il a été un psychothérapeute soignant par la suggestion et l'hypnotisme, mais il n'a pas fait véritablement le lien entre les deux. Or je pense que ce qui est nouveau, c'est que Freud fait le lien entre les deux et que du coup il invente une nouvelle pratique concernant les rêves. Et à certains égards, il les fait changer en inventant cette nouvelle pratique, puisque je crois qu'il y a des effets dans toutes les sciences humaines, c'est pas propre à la psychologie, mais en quelque sorte les sujets s'approprient une psychologie et la font exister par la même. Donc effectivement, là je crois que ça a été extrêmement important. Et de ce point de vue-là, moi, je recommanderais volontiers la lecture du livre de Marinelli et Maillère, « Rêver avec Freud ». Vous voyez, le titre est tout à fait intéressant. L'interprétation collective des rêves. Et on voit bien comment l'interprétation du rêve est devenue un livre collectif au fil d'éditions successives, et non pas le monument intangible auquel on croit avoir affaire. Donc, je dirais que vraiment, il y a eu une invention d'une nouvelle pratique. Il ne s'agit pas de dire que c'est une mystification, il s'agit de dire simplement que c'est une nouvelle pratique qui apparaît concernant les rêves et donc une pratique d'interprétation à deux que certains d'ailleurs à l'époque ont identifié, non seulement Freud mais d'autres, des auteurs français, comme revenant au fond à la pratique grecque de l'interprétation des rêves telle que on la voit chez Artémidore, qui est donc un grec du deuxième siècle après Jésus-Christ, donc qui nous a laissé la seule interprétation du rêve, complète. Voilà. Donc j'ai essayé de vous montrer, de vous faire une sorte de panorama et de chemin peut-être un peu tortueux, mais on pourra y revenir éventuellement.
On va y revenir. Oui, je crois que tu montres vraiment très bien comment justement Freud s'inscrit dans une tradition qui existe déjà, hein, autour de cette interprétation du rêve, du sens du rêve, mais tout particulièrement dans laquelle le rêveur est impliqué. Alors, soit il est impliqué directement dans son rêve, soit ça dit quelque chose de lui, contrairement à d'autres cosmologies du rêve ou ce qui se passe dans le rêve traduit une réalité qui peut être complètement extérieure au rêveur, puisqu'on voit, il y a certains textes qui montrent très bien que le rêveur peut, par exemple, le lendemain aller se venger de quelqu'un qui l'avait attaqué dans la nuit, parce qu'il y a là une preuve réelle. On n'est pas du tout dans cette tradition-là, on est bien dans une tradition, me semble-t-il, où il y a un lien étroit entre le rêveur et son rêve. Alors c'est pour ça que j'avais envie de m'adresser à vous, puisque vous avez écrit un ouvrage que je peux montrer aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison.
Vous avez oublié le titre.
Mais non, je l'ai retrouvé, Nuit étroitement surveillée. Voilà, une erreur, je la paye tout le temps. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez de ce rapport, parce que vous-même, vous êtes passionné par les rêves, je crois, et sur la surveillance aussi, des rêves. Je vous laisse le micro.
Ça, je suis content que l'image qui est... Il faut parler dans le truc.
Ouais,
que l'image qui est derrière nous soit l'image des oreillers dessinés, gravés par Dürer, parce que ça ramène le rêve dans ce qui est son vrai contexte, à savoir le sommeil. Or, trop souvent, je trouve que le rêve est autonomisé par rapport au sommeil, comme s'il existait justement ailleurs, sur un écran, comme un film, ou comme une suite de diapositives. Or, le rêve est pour moi inconcevable sans ce qu'est l'activité propre du dormeur. Donc, je dirais plutôt que l'implication du rêveur dans son rêve, c'est vrai, c'est l'implication aussi du dormeur dans son... Donc là, c'est dans le sommeil qu'on rêve. On peut rêvasser pendant la journée, on peut d'ailleurs même brièvement rêver pendant la journée. Oui, alors, ce qui m'a plu dans le livre de Jacqueline Carrois, c'est que moi j'ai publié un livre il y a plus de 30 ans, et je me sentais très seul à une époque, 1980, la fin des années 70, le freudisme était assez dominant dans la vie intellectuelle. Aujourd'hui, ça s'effrite un peu. Enfin, non, mais votre profession n'est pas menacée, mais quand même. Un peu quand même. Et alors, je suis content de voir que Jacqueline Carrois reprend ce travail, pas à ma suite, mais quand même en tenant compte de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, faire quoi? Alors, elle est historienne, ce que je ne suis pas, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à, comme elle l'a dit très justement, la première partie de l'interprétation des rêves, ou de l'interprétation du rêve, ou de la science des rêves, selon les traductions qu'on a données de ce livre de Freud. Cette première partie qui, moi, m'a passionné, qui est la partie, on pourrait dire, bibliographique, où Freud dit « voilà ce que j'ai lu ». Alors, j'ai pas du tout négligé cette première partie, elle m'a accroché énormément, parce que j'y ai trouvé mention, non pas d'auteurs anciens, mais justement de ces auteurs français pour la plupart, de la seconde moitié du 19e siècle, enfin à partir de l'époque romantique quand même, 1840. Alors, il y a un point que je trouve extrêmement juste dans votre lecture, parce que vous avez fait l'effort de les lire. Vous avez lu Maury, vous avez lu Hervé de Saint-Denis, vous avez lu Delboeuf, que Freud avait lu. Enfin, juste un détail, Freud n'avait pas pu, comme vous savez, lire... les rêves et les moyens de les diriger la première fois au début de sa rédaction. Moi, je sais pourquoi. Je crois savoir pourquoi. C'est juste une énigme policière, parce que quand j'ai cherché le bouquin à la bibliothèque de la Sorbonne, Hervé de Saint-Denis, les rêves et les moyens de les diriger, il n'y était pas. En fait, il y était. Il était classé parmi les anonymes. Donc au bout de quelques mois d'obstination, parce que je suis obstiné, je l'ai trouvé. Il y était, mais Freud a fini par le trouver par d'autres sources, donc il l'a lu en effet. Alors ce qui m'a plu dans ces livres, dans ces recherches faites par des gens qui, tout en étant profs au Collège de France, étaient quand même, pour une part, des amateurs, voire des farceurs, parce qu'Hervé de Saint-Denis, professeur de littérature chinoise au Collège de France, connaissait très peu de chinois, même s'il a fait des traductions des poèmes de l'époque Tang, mais c'était quand même un être assez excentrique et d'autant plus passionnant. Alors, en les lisant avec sérieux, en m'intéressant, alors, ce que j'ai découvert et que vous avez relevé, c'est leur intérêt pour ce qu'il reste de lucidité dans l'activité du rêveur. C'est-à-dire que le rêveur, quand on lit Maury ou Delbeuf, Hervé de Saint-Denis, le rêveur n'est pas comme un hypnotisé, comme un spectateur d'une salle de cinéma qui voit un film et sur le déroulement duquel il n'a aucune action. Tout ce qu'il peut faire, c'est, si ça le dégoûte, se lever et sortir. Le rêveur, selon ses personnages, il a ce pouvoir que vous avez relevé tout à l'heure d'un mot qu'a inventé, je ne sais plus si c'est par Maury ou par Lelbeuf, l'altruisation. C'est-à-dire que il dort, certes, mais une partie de lui-même, de sa conscience, reste vivante, parce que le sommeil est une activité de la conscience, mais le rêve est éminemment une activité de la conscience, c'est une conscience d'un type particulier. Excusez-moi d'être dogmatique, mais quand même...
Altérée.
Et voilà, c'est une conscience altérée. On dit ça en anglais, altered state. Alors, oui, le rêveur, il est présent sous une forme diminuée. Il ne peut pas agir sur ses muscles, mais il peut agir sur sa pensée. Et donc, il se projette, ou il anime des personnages, des chiens, des gens qui le poursuivent, etc. Et alors, c'est cet aspect qui m'a intéressé, plus que le second aspect que vous avez mis en lumière tout à l'heure dans votre exposé, c'est-à-dire de quelle façon Maury, Delbeuf, Hervé de Saint-Denis et d'autres, d'ailleurs, anticipe sur l'œuvre géniale de Freud. Parce que moi, je trouve que l'œuvre de Freud est géniale, mais pas sur le plan du rêve. Là, je trouve que sur le plan du rêve, c'est une erreur complète, je le dis au passage. C'est pas très important. Alors, c'est ça la lucidité. C'est que, enfin, juste encore un mot, parce que l'auteur qui a développé cette idée de la façon la plus spectaculaire, c'est Hervé de Saint-Denis, ce fameux professeur chinois au Collège de France, donc onirologue amateur, qui avait des loisirs et des domestiques, et qui a voulu expérimenter de quelle façon on peut intervenir, en quelque sorte, volontairement au cours du déroulement de son rêve, au lieu de le subir comme quand on voyait un film de Kubrick ou un film d'horreur. Alors, il en donne des exemples. Certains sont magnifiques, mais tout à l'heure, j'avais noté la page et puis là, je l'ai perdue. C'est que, par exemple, Hervé de Saint-Denis explique qu'il se donne une consigne pendant la veille. Il se dit, si je me retrouve à un moment donné en train de rêver, ne pas oublier de faire telle ou telle chose. Et par exemple, je vais peut-être le retrouver, il se dit, faisons l'expérience la plus extrême. Lorsque je serai en train de dormir, ne pas oublier d'essayer d'expérimenter sur ce qui se passerait si je me jetais par la fenêtre. Enfin, c'est pas quelque chose que je vous recommande, parce que il y a un doute s'instaure, une espèce de doute cartésien. On se dit, mais est-ce que je suis vraiment en train de rêver que je me jette par la fenêtre, ou est-ce que j'ai trop pris de LSD et que je me jette vraiment par la fenêtre? Alors, il le raconte, il se retrouve en train de rêver, et à ce moment-là, il se dit, bon, il faut y aller, avec une espèce de courage. Courage ou de folie. Et alors, il se jette par la fenêtre. Et ce qui se passe, c'est que dans la suite de son rêve, bizarrement, le point de vue change. C'est une autre scène. Et il n'est plus penché à une fenêtre en train de regarder la place, mais en bas sur la place, il y a un petit rassemblement de gens autour d'un corps. Alors, chez Hervé de Saint-Denis, comme vous l'avez dit très justement, on ne peut jamais savoir si un rêve est authentique. Le rêve, il est un mélange de bribes de souvenirs, de réinvention au moment du réveil et de... Oui, une façon dont on remplit des vides, parce que le rêve est rarement un tissu serré et continu, il est lacunaire. Alors, chez Hervé de Saint-Denis, on a des doutes sérieux, mais on n'a aucun moyen de vérification. Mais ces rêves ont une très, très grande force de persuasion. Moi, personnellement, ils m'ont emporté. Et je crois qu'ils ont emporté Freud, que dans la première partie de l'interprétation des rêves, ou du rêve, ou comme vous voudrez, il va très loin dans le sens d'Hervé de Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il accentue la part par laquelle le dormeur est conscient au sein même de son sommeil et de son rêve. Et ça, c'est pas une phrase que moi, Pierre Pachet, je me permettrais de dire tout seul. J'ai Freud derrière moi, il l'a écrit, c'est dans la science des rêves, et je pense que vous le relevez vous-même, et je connais peu de Freudiens qui tiennent compte de cette phrase. Ils doivent la considérer comme une bizarrerie... Oui, il la met en italique pour l'accentuer. Bon, alors il va de ce côté-là. Et puis dans la seconde, dans la suite de sa construction, alors là, on a bon toutes les choses que le rêve est une construction de l'inconscient, qui a le amalgame, ceci, cela, qui exprime le désir, enfin toutes sortes de choses tout à fait honorables, mais qui sont d'un autre ordre. Donc moi, ce que je fais, c'est pas un travail. Ce que j'ai voulu faire, c'est pas un travail archéologique. C'est que j'ai trouvé dans ces auteurs. Entre 1840 et 1890, j'ai trouvé une source d'inspiration. C'est pas comme un texte ancien qui m'ont intéressé. C'est parce qu'ils sont vivants et que capables d'inspirer la réflexion et l'observation.
Il y a une vraie écriture. Hein, c'est là aussi, alors là, l'écrivain que vous êtes et l'universitaire pourrait nous en dire quelque chose. Il y a une vraie écriture du rêve. Il y a une écriture à la fois dans la façon dont il est vécu, j'imagine, mais comme vous le disiez très justement, on ne peut pas l'atteindre, cette façon dont il est vécu, on n'a que ses traces, et l'écriture qui en est donnée, à savoir celle qui est retranscrite là, ou celle que tu reprends, ou celle qui est racontée, participe peut-être d'un exercice, pour le coup, qu'on pourrait appeler littéraire, non ?
Juste un mot, parce que ben, c'est là qu'est le danger, bien entendu, quand je dis que quand on raconte son rêve, et surtout si c'est un écrivain ou quelqu'un qui est un peu doué, qui a de la faconde, alors à ce moment-là, la tentation est grande de lui donner plus de cohérence qu'il n'en avait. Et Jacqueline Caloy relève chez un auteur qui n'est pas un auteur majeur, mais un des premiers efforts pour restituer le rêve dans son côté lacunaire, par une suite d'infinitifs. J'ai trouvé ça très intéressant. Il faut parler dans le tube. Ah mince. Bon, ben on recommence tout alors.
Allez-y.
Non, j'ai fini.
Effectivement, il y a, surtout à la fin du 19e siècle, il y a un nouveau type de récit, comme le dit Pierre Pachet, où on va se mettre à essayer d'être au plus près du rêve, et donc, par exemple, on va écrire son rêve en style télégraphique. Mais on peut aussi... Qu'est-ce qui est le plus vrai ? C'est un peu plus compliqué, parce qu'on peut aussi... essayer de le recréer avec les émotions, l'atmosphère, etc. Donc, la question, au fond, est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un rêve authentique. Et de ce point de vue-là, nous parlions avec Pierre Pachet de l'article de Queneau, des rêves à foison. Hein, c'est donc Raymond Queneau qui avait été un des compagnons de route des surréalistes notamment, et donc il publie dans les Cahiers du chemin 15 récits de rêves, si j'ai bonne mémoire, et c'est des récits enfin on a l'impression que c'est des vrais rêves. Et puis à la fin, il y a une petite conclusion, il dit attention, ce ne sont pas des vrais rêves, ce sont simplement des petits épisodes de la vie quotidienne que j'ai transformés en rêves en leur donnant un style onirique. Mais il le dit beaucoup mieux que moi. Hein. Voilà. Donc, et alors, ça ne veut pas dire qu'il faille tout de suite s'interroger sur l'inauthenticité des récits, mais plutôt de penser au fait que tout rêve est un récit. Et moi, j'étais aussi beaucoup attentive à la dimension de circulation des rêves, de récit à autrui du rêve. Au fond, dans la psychanalyse, c'est cela, mais c'est pas seulement... Enfin, il y a bien d'autres occurrences dans lesquelles on raconte ses rêves, par exemple, mais... Mes savants rêveurs du 19e siècle, auxquels je reviens, eh bien, ils vont raconter leurs rêves dans leur cercle familial, à leurs collègues, ils vont en discuter. Et on va publier aussi un rêve en relation et en résonance avec le rêve publié d'un autre collègue. Donc, par exemple, il y a des rêves célèbres, comme le fameux rêve de Maury de la guillotine, où donc Maury se voit guillotiné, et ce rêve va être tout le temps commenté, répliqué, etc. Et c'est aussi un rêve, évidemment, qui renvoie à un imaginaire politique typiquement français, hein. Donc là, il y a aussi une dimension politique du rêve. Dans le rêve pénètrent des éléments politiques divers et variés. J'en donnerai un exemple qu'on retrouve chez Freud. À un moment, il rêve de Dreyfus. Donc c'est au moment de l'affaire Dreyfus, et à certains égards, citer cet exemple-là veut dire à son lecteur « je m'intéresse au sort de Dreyfus et je suis plutôt Dreyfusard ». Donc on voit bien que les rêves servent aussi de messages indirects, quelquefois, messages politiques indirects ou plus directs. Enfin, donc il y a toute une fonction, un usage des rêves vis-à-vis d'autrui qui me paraît extrêmement intéressant. Et je dirais que à ces usages du rêve, Freud en ajoute un autre qui serait l'usage thérapeutique, pour le dire vite. Et oui, pour rajouter à ce que vous avez dit, effectivement, je pense que si on reprend cette histoire du 19e siècle, on va avoir une vision de l'interprétation du rêve un peu différente que celle qui a été... je dirais ossifié par la tradition psychanalytique, c'est-à-dire qu'on verra que Freud était aussi, par exemple, un rêveur conscient de rêver, comme vous l'avez montré, et il était fasciné manifestement par Hervé de Saint-Denis. Bon, on verra que il a écrit des récits de rêves, il a publié des récits de rêves, à mon avis, en réponse à ceux de Maury ou à ceux de Delboeuf. Enfin, donc il a été en dialogue avec toutes ces personnes. Et enfin, c'est tout à fait intéressant de voir qu'à plusieurs reprises, c'est pour ça que je l'ai mis en exergue de mon livre, il souligne le caractère insondable et énigmatique du rêve, lorsqu'il parle de l'ombilique ou du nombril du rêve. Donc il y a chez lui une espèce de flottement, il y a une théorie évidemment sur l'essence du rêve comme réalisation d'un désir, mais il y a aussi des passages dans lesquels au fond il est beaucoup plus en phase avec la science des rêves de son temps, et dans lesquels il va dire ben oui, le rêve reste une énigme, d'où on reviendrait à ce que tu avais dit au départ, donc l'aspect énigmatique du rêve.
L'aspect énigmatique du rêve pose qu'il y a donc quelque chose dedans. Et on aurait très bien pu imaginer que, voilà, on se satisfasse de l'idée que les rêves c'est n'importe quoi et il n'y a que n'importe quoi dedans. Point barre. Il se trouve que, justement, tu montres très bien, et vous le soulignez également, que les rêves sont dépositaires d'un savoir, depuis toujours. Depuis toujours, on se dit, il y a quelque chose d'un savoir, étonnant d'ailleurs, hein, c'est la question que j'avais envie de vous poser à tous les deux. Au fond, tout acte de pensée n'est pas susceptible d'avoir un savoir dedans. Il y a des gens qui pensent bien, il y a des gens qui pensent mal, il y a des imbéciles, il y a des gens instruits. Tout acte de pensée n'est pas dépositaire d'un savoir. Or, il se trouve que souvent, sur les rêves, on suppose et on présuppose qu'il peut y avoir là un savoir d'une autre nature. Alors, soit de l'inconscient de la personne, soit de ce qui lui est arrivé par ailleurs, soit d'une vie antérieure, soit de quelque chose qui viendra. Et il y a là, me semble-t-il, une sorte d'invariant presque transculturel, pas dans les formes, bien sûr, mais dans l'idée qu'il y a quelque chose, à savoir une clé. Alors, tu as parlé beaucoup de la clé des songes et j'aimerais peut-être que tu redises quelque chose.
Oui, alors... Il ne faut pas oublier que au XIXe siècle, mais c'est une longue tradition occidentale qui vient d'Artémidore, On vend des clés des songes. Par exemple, dans les rues de Paris, enfin c'est ce que raconte Maury, il y a des colporteurs qui crient, donc c'est les cris de Paris qui crient « Avez-vous rêvé de chien ? Avez-vous rêvé de chat ?» et qui proposent des petites brochures où on va pouvoir, qui prennent la forme de dictionnaires et dans lesquelles on va pouvoir voir, par exemple, que si on a rêvé de chat, en général, c'est signe qu'il y aura une perfidie à votre égard, hein, ou de chien, au contraire, ce sera plutôt bénéfique, etc. Donc, il ne faut pas oublier toute cette littérature extrêmement importante et qui a... Alors, c'est assez compliqué à comprendre comment les gens utilisaient ces clés des songes. Il y avait aussi, et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier, il y avait un usage proprement ludique des clés des songes. C'est-à-dire que dans certaines clés des songes, certains rêves étaient liés à des numéros. Par exemple, vous rêviez de cheval. Il y a beaucoup d'occurrences cheval. C'est normal, il y avait beaucoup de chevaux, hein, à l'époque. Donc vous rêviez de cheval et à ce moment-là, vous voyez que c'est associé au chiffre 13. Et à ce moment-là, vous devez jouer à la loterie tout de suite le chiffre 13. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est si vous rêvez du chiffre 13, alors là, vous allez tout de suite aller jouer au loto. Et cet usage donc ludique du rêve, il était répandu dans la Vienne de Freud, en France aussi, et on le retrouve encore beaucoup en Italie et notamment à Naples. À Naples, on vend des petits livres qui s'appellent la smorfia, ça veut dire la grimace, et donc qui associent des éléments de rêve à des numéros à jouer au loto ou à la loterie. Donc, il y a un aspect ludique. On s'amuse aussi des clés des songes, mais on y croit aussi un peu. Donc, c'est très complexe, la relation aux clés des songes. Et il faut bien voir qu'il y a eu des multiplicités de clés des songes au XIXe siècle qui, quelquefois, reprenaient Artemidore. Mais en l'adaptant. C'est-à-dire que si on suit une clé des songes, par exemple, moi j'en avais suivi une qui m'intéressait particulièrement car c'était une clé des songes haut de gamme, si j'ose dire, assez bien imprimée, et je me disais qu'elle aurait pu figurer dans la bibliothèque d'un savant, éventuellement. Et cette clé des songes, elle a été éditée de 1860 à 1980, c'est énorme, et chez Garnier Frères, hein. À la fin. Et donc, cette clé des songes, on voit petit à petit comment de nouvelles occurrences apparaissent. Par exemple, en 1949, dans Le Grand Interprète des songes, on voit apparaître l'entrée automobile et avion, ce qui évidemment n'était pas dans les clés des songes du 19e. Mais dans la première édition en 1860, on a l'entrée, par exemple, guillotine. Évidemment, Artemidore n'avait pas de guillotine. Et on a l'entrée vaccin, pour vous donner deux exemples, donc typiquement du 19e siècle. Donc, vous voyez que on a là aussi l'idée que les rêves renvoient donc... à un avenir, et là, alors, on isole des éléments du rêve, et on dit, voilà, ça va renvoyer un avenir. Alors, il faut pas oublier non plus que dans les clés des songes, au fond, on assigne au rêve deux fonctions. Une première fonction qui est simplement naturelle. Le rêve, il y a des rêves qui ne sont pas allégoriques, qui ne disent rien d'autre qu'eux-mêmes, en quelque sorte. L'exemple donné par Artemidore est repris dans les clés des songes du 19e siècle, c'est l'homme qui a soif et qui rêve qu'il boit. Voilà, il rêve qu'il boit, bon, c'est tout. Et puis, effectivement, c'est plutôt dans la deuxième partie de la nuit, on considère que là, il peut y avoir des rêves qui ont un sens allégorique, c'est-à-dire qui disent autre chose qu'eux-mêmes, mais des rêves aussi qui peuvent être des visions non allégoriques, c'est-à-dire claires, renvoyant à l'avenir. Donc il y a tout un usage des clés des songes inspiré d'Artemidore qui est passé par des traductions quelquefois expurgées d'Artemidore, car Artemidore est assez hard, on pourrait dire. Donc les traductions du XVIIe et XVIIIe siècle ont un petit peu édulcoré ce qu'il y avait de hard dans Artemidore. Et Elles ont été compilées au XIXe siècle par des plumitifs, dont on peut imaginer que c'était des érudits qui allaient à la Bibliothèque royale ou nationale et qui lisaient les traductions d'Artemidor faites au XVIIe siècle et qui les adaptaient dans des clés des songes qui étaient faites soit pour le colportage, soit pour un usage, alors qu'ils pouvaient se vendre, non pas dans les librairies vraiment huppé, mais chez les marchands de journaux, ce qu'on appellerait l'équivalent des marchands de journaux actuellement. Voilà. Donc, je crois que c'est important. Et alors, ce qui m'a aussi intéressée, c'est de voir que, à la fois, les savants rêveurs du XIXe siècle disent non, non, nous ne sommes pas dans la superstition. Et néanmoins, on voit qu'il y a des récits qui circulent entre les clés des songes et les livres savants. Par exemple, le rêve de la guillotine, on va voir une clé des songes qui va le citer. Ou bien encore, un rêve qui est très connu, qui est tout le temps cité, qui est un rêve cette fois-ci créateur ou créatif, le rêve de Tartini, de la sonate de Tartini. Donc, c'est un récit du XVIIIe siècle qui passe dans les livres médicaux, etc. Et c'est donc un compositeur du XVIIIe siècle qui raconte à un savant français du XVIIIe siècle qu'un jour, le diable lui aurait dicté une sonate en rêve. Donc il rêve, il voit le diable qui lui dicte une sonate. Et en réalité, d'ailleurs, il oublie la sonate au réveil et il la retrouve seulement. Et ce récit va se transmettre, va s'accréditer. On va le simplifier, on va dire « le diable avait... dicter sa sonate à Tartini », on va le voir circuler chez les savants, on va le voir circuler aussi dans les clés des songes. Et on va voir aussi, alors autre chose, le rêve qui permet de découvrir, il y aura par exemple des enquêtes chez les mathématiciens, donc vous voyez que ça va de la découverte musicale à la découverte mathématique, et il y a une enquête qui est menée à la fin du XIXe siècle, et un certain nombre de mathématiciens se sont passionnés là-dessus, et alors il y a des récits de rêve avec des figures mathématiques que je ne saurais décrypter, mais qui serait intéressant de décrypter. Donc c'est pour vous donner un peu le panorama.
Et alors, justement, est-ce que dans les rêves que l'on pouvait diriger, est-ce que dans les rêves que l'on peut diriger,
je ne dors pas.
Mais j'ai jamais pensé que vous dormiez, j'ai pensé que vous rêviez. Dans les rêves que l'on peut diriger, est-ce qu'il y a la volonté d'aller chercher autre chose que l'expérience de le diriger ? Par exemple, justement, une solution à un problème, une réponse mathématique, une sonate, que sais-je encore ? Il y a une autre fonction que l'expérience elle-même ?
Oui, je trouve que c'est une bonne question, parce que encombre notre horizon quand il s'agit des rêves, je parle du public cultivé ou du public en général et pas des chercheurs. Ce qui l'encombre, c'est que la question de la Deutung, de l'interprétation, est devenue importante à cause prétendument de la visée thérapeutique. Or, moi personnellement, ce qui m'intéresse, ce qui intéresse les savants amateurs du XIXe siècle, ce qui intéresse les chercheurs contemporains en neurologie, c'est pas l'interprétation du rêve, qui, à mon sens, a peu d'intérêt, même si le rêve se présente comme une sorte d'énigme. Souvent, on rêve, pourquoi j'ai rêvé ça? Ce qui est intéressant, c'est l'observation de l'activité du rêveur. C'est tout autre chose. Et cette faculté d'observation, qui, je dois dire, était particulièrement répandue dans la psychologie et même dans la médecine française au XIXe siècle, est toujours menacée, en risque de se perdre au profit de l'interprétation qui est beaucoup plus spectaculaire, qui promet des merveilles. Ah oui, vous désirez votre maman, ah bon, un truc comme ça. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans le rêve. Dans le rêve, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un présent du rêve. Alors, puisque vous m'excitez, Richard Eichmann, j'ai retrouvé, si je l'ai pas perdu d'ici là, le moment tout dégringole, où Hervé de Saint-Denis veut faire l'expérience dont je vous ai parlé. Qu'est-ce qui se passerait dans mon rêve? Non pas qu'est-ce que j'apprendrais sur moi-même, mais ou sur mon inconscient prétendu, mais qu'est-ce qui se passerait dans mon rêve si je décidais de sauter par la fenêtre? Il fait d'autres expériences. Il se dit, si à un moment mon rêve, je suis à cheval et je peux aller à droite ou à gauche, alors qu'est-ce que... Bon, alors, J'en lis quelques lignes. Sauter par la fenêtre d'un cinquième étage, me brûler la cervelle ou me couper la gorge avec un rasoir, évidemment, voilà des impressions que je n'avais jamais ressenties. Parce qu'il manque pas d'humour, ce garçon. Les provoquer en songe serait donc soumettre mon esprit à une intéressante épreuve. C'est l'esprit expérimental qui m'intéresse chez eux. C'est pas la recherche de l'interprétation. Elle est inexistante. Enfin, pas complètement inexistante, comme vous l'avez dit. J'attendis près d'un mois. Il faut avoir de la persévérance. Ça aussi, c'est bon. Une nuit, enfin, que je rêvais me promener dans la rue, que toutes les images de mon rêve étaient bien nettes, et que je sentais parfaitement, néanmoins, que je n'étais pas éveillé. Alors, si vous n'acceptez pas cette donnée, évidemment, vous pouvez sortir de la salle, parce que ce que je vais lire n'a aucun sens. Je me souvins tout à coup de l'expérience à faire. C'est ça la consigne qui s'était donnée. Je montai aussitôt jusqu'à l'étage supérieur d'une maison qui me paraissait très haute. Je vis une fenêtre ouverte et le pavé à une grande profondeur. J'admirai un instant la perfection de cette illusion du sommeil. Donc, c'est ça l'intérêt pour l'activité mentale du rêveur par lui-même, c'est qu'il n'est pas totalement passif, mais qu'une partie de lui-même, et même quand il est poursuivi par un ours ou par un terroriste épouvantable, une partie de lui-même sait que cette créature qui le poursuit est une création de son esprit. Bon, alors je reviens. J'admirais la perfection de cette illusion du sommeil et sans attendre qu'elle s'altérât, je me précipitais dans le vide, plein d'une anxieuse curiosité. Il y a un vers de Baudelaire qui va dans le même sens. Un peu mort. Parce que chez Nerval, chez Baudelaire, il y a aussi ce goût de la lucidité qui est l'essentiel de cette attitude à l'égard du sommeil. Lucidité à l'égard du sommeil, du rêve qui est enclos, lucidité dans le rêve lui-même. Or, voici ce qui arriva et dont je ne me rendis compte naturellement qu'après que je me fus éveillé. Perdant instantanément le souvenir de tout ce qui précède, je me crus sur le parvis d'une cathédrale, mêlé à un groupe de curieux qui se pressaient autour d'un homme tué. On racontait autour de moi, etc. Alors, c'est ainsi que ma mémoire et mon imagination s'étaient tirées du piège que je leur avais tendu. Donc, c'est ça, la possibilité d'une permanence d'un reste de lucidité, qui n'est pas une lucidité complète, évidemment, si tant est qu'une telle chose existe. Bon, je voudrais vous raconter un rêve de psychanalyste, après je le fais à tous les coups.
Tout de suite, allez-y.
Non, mais j'ai encore deux minutes.
Ah, oui.
Non, mais ce n'est pas un rêve exactement de psychanalyste. C'est que il y a un psychanalyste que j'admire énormément, qui est décédé malheureusement, c'était Donald Winnicott. Un homme extrêmement paradoxal, comme doit l'être un psychanalyste, il me semble, malicieux, pourvu d'une grande dose de bon sens. Et puis un jour, il meurt et sa veuve Claire, qui s'appelait Claire, a fait un rêve qu'elle a raconté. Mais je vais vous le raconter, puis après j'arrête. Un rêve, dit-elle, que j'ai fait à propos de Donald, 2 ans et demi après sa mort. J'ai rêvé que nous étions à Londres, dans notre magasin favori, dont l'escalier circulaire conduit à tous les étages. Nous montions et descendions, prenant des choses un peu partout pour faire des cadeaux de Noël à nos amis. Nous étions saisis d'une véritable fièvre de dépenses, sachant bien que nous finirions, comme toujours, par garder beaucoup de choses pour nous. Celle qui rêve, elle est toujours Claire Winnicott, elle n'est pas un zombie, elle est elle-même. Elle a gardé une grande partie de son caractère, de ses souvenirs. Je pris brusquement conscience qu'après tout, Donald était vivant et je pensais soulagé. Maintenant, je n'ai plus à m'en faire pour la carte de Noël. Une partie d'elle-même se souvient de la mort, mais est submergée par ce que le rêve lui apporte d'oubli bienfaisant. Puis nous étions assis au restaurant, buvant notre café du matin comme d'habitude. Nous sortions effectivement toujours le samedi pour aller le prendre. La vie conjugale est complètement présente. Nous étions face à face. Mais là, je vais être ému en le disant, c'est ça qui est chiant. Nous étions face à face, les coudes sur la table. Je le regardais droit dans les yeux et lui dis « Donald, il y a quelque chose qu'il faut que nous nous disions. C'est une vérité que nous devons nous dire. Qu'est-ce que c'est ?» Il plongea alors sans ciller ses yeux si bleus dans les miens et dit « Que c'est un rêve ?» Je répondis lentement « Oh oui, c'est vrai. Tu es mort ?» Il y a un an que tu es mort. Il répéta mes paroles. Oui, il y a un an que je suis mort. Et c'est ainsi qu'au travers de ce rêve de jeu, c'est une expression de Winnicott, La vie, la mort, la sienne, la mienne, je les ai éprouvées comme une réalité. Alors, voilà un récit de rêve qui est beau. Voilà un récit de rêve qui est authentique. Parce qu'il ménage, il ne présente pas un scénario de film, il ne présente pas un film, il présente l'expérience vivante du rêve. On pourrait dire, il la présente au présent, dans la mesure où elle peut être ressaisie. Et dans cette expérience de rêve, alors, la réalité, non seulement n'est pas abolie, mais du fait que cette femme a eu la chance d'être mariée à un grand analyste, qui était soucieux de vérité, ben la vérité se dit. Et la vérité se dit, c'est pas la vérité de l'inconscient, c'est la vérité, au contraire, du conscient dans ce qu'il a de plus blessant. C'est clair ?
C'est un rêve magnifique. Magnifique. Qui montre très très bien comment les gens, finalement, dans leurs rêves, sont là pour le coup, même si vous disiez que c'était le dormeur, sont vraiment présents. Les gens qui sont en vie, et les morts aussi. Alors ça, c'est un point sur lequel j'aimerais vous interroger l'un et l'autre, parce que selon justement les traditions culturelles, et je pense à la tradition culturelle sur laquelle je travaille depuis des années, les morts et le rêve, c'est quelque chose qui est intimement lié. C'est le lieu par excellence où ces derniers se rappellent, alors sous cette forme-là que vous venez nous rapporter d'une incroyable présence, parfois même plus présent que dans la réalité, et où le sens de cette rencontre est, là c'est à la fois mon expérience d'anthropologue et de clinicien qui s'exprime, mais le sens de cette expérience est tout à fait énigmatique et inquiétant pour ceux à qui c'est raconté, et rarement pour ceux qui le racontent. C'est-à-dire que là, on a l'impression, et justement, je trouve que cette vignette est formidable, parce qu'on n'a pas le sentiment de l'étrangeté et la nécessité de le poser comme étrangeté, de distanciation, pour laisser libre cours à cela en disant « je sais bien que c'est un rêve », ce qu'on voit quand même très souvent, les gens. Voilà, « je sais bien que c'est un rêve, mais je vais quand même vous le raconter ». Là, il y a quelque chose, ce que vous avez appelé l'authenticité, j'imagine, mais qui va peut-être au-delà de la question de l'authenticité ou de l'inauthenticité, qui est de l'expérience qui n'est pas forcément une expérience inquiétante. Alors, ces rêveurs dont tu nous parles si joliment, est-ce qu'ils étaient aussi préoccupés par les morts et par ce que la mort pouvait en faire ?
Oui, il y a beaucoup de rêves de revenants, où il y a des revenants, des morts qui reviennent. Alors il y a un rêve de Maury, enfin, que vous citez d'ailleurs, je crois, où il revoit un collègue. Périodiquement, il revoit un collègue qui est mort, et il discute avec lui, et il se dit, mais quand même, il est mort. Et puis, il revoit, dans un autre rêve, son prédécesseur à l'académie, des inscriptions et belles lettres. Et évidemment, dans le rêve, il fait tout un raisonnement, disant, mais comment vais-je faire s'il est vivant? Je peux plus être membre de l'académie des inscriptions et belles lettres. Et à ce moment-là, il se dit, mais peut-être que je pourrais être académicien surnuméraire. Donc il y a une espèce de jeu avec les morts, mais il y a aussi des rêves plus inquiétants où des revenants, on voit, parce que Maury, par exemple, a perdu, enfin disons, s'est éloigné de la religion catholique, et à un moment on voit son père surgir dans un rêve, donc comme une sorte de saint guérisseur qui guérirait ses yeux, et en même temps il sait que c'est un revenant. Mais on a aussi des rêves à revenants chez Freud, et avec la conscience que ce sont des morts. Ce ne sont pas des rêves oedipiens, et Freud est revenu sur ses rêves à plusieurs reprises dans les différentes éditions. C'est tout à fait intéressant de voir que il a toujours eu le sentiment que ses rêves, dans lesquels revenaient des morts, son père, mais aussi des collègues, enfin, il y a différents rêves comme cela. Ces rêves, en fait, dans lesquels reviennent des morts, et dans lesquels, au milieu du rêve, on a la conscience que c'est un mort, notamment, eh bien, ces rêves-là, il gardait pour lui une part de mystère. C'est ce qu'il dit à plusieurs reprises. Et il a, c'est pour ça que c'est intéressant de lire l'interprétation du rêve en allant d'édition en édition, parce qu'on voit qu'il en a plutôt rajouté à ce niveau-là, et qu'il a jamais réussi à, comment dire, à faire rentrer ce type de rêve dans le moule édipien, on pourrait dire. Voilà. Donc, il y en a beaucoup d'autres. Bon, là, j'ai donné les exemples parce que chez Maurice, c'est assez frappant, mais on en trouverait d'autres. On en trouverait, par exemple, chez Maurice Alvax, donc, qui est un sociologue avant d'entrer au Collège de France, donc part en déportation et meurt en déportation en 1945. Et donc auparavant, de façon posthume, on a publié un article de lui sur les rêves. Et donc dans un de ses rêves, il revoit. Alors ça, c'est le souvenir de la guerre de 14. Et donc il revoit un camarade mort, un camarade de la guerre de 14, de l'école normale supérieure. Il était normalien, donc il revoit ce camarade et il le revoit comme mort et en même temps comme séparé de lui, avec le sentiment d'un regret, du regret de ne pas avoir pu dialoguer avec lui, justement, puisque il est mort à la guerre de 14. Et on voit là que cette guerre de 14, alors c'est assez intéressant parce que il y a eu un travail sur Alvax de Annette Becker qui dit que Alvax, dans les cadres sociaux de la mémoire, n'a jamais parlé de la mémoire de la guerre de 14. Or, c'est l'un des seuls textes où il en parle et sous la forme d'un rêve de la guerre de 14. C'est juste pour donner cet exemple.
On va peut-être prendre des questions et passer la parole à la salle si vous avez des remarques et des commentaires à faire à nos deux orateurs. Et oratrice.
Bonsoir. Juste pour revenir sur le rêve que vous venez de raconter, Pierre Paché, est-ce que vous faites une... parce que là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un rêve lucide, au sens où c'est le rêve qui est lucide et pas la rêveuse, puisque la rêveuse refuse de... À la fois, elle génère la vérité, mais elle refuse aussi de l'entendre pendant le rêve. Et c'est le rêve qu'elle invente qui lui dit « c'est un rêve ». Est-ce que vous faites une différence entre le rêve lucide, au sens où c'est le rêve inventé qui est lucide lui-même, et des rêves où la personne elle-même est lucide, comme de Saint-Denis qui choisit de se jeter par la fenêtre pendant son rêve. Je ne sais pas si c'était sûrement pas très clair.
Enfin, à vrai dire, je ne suis pas sûr d'avoir compris la nuance ou la distinction que vous faites entre le rêve inventé, le rêve lucide. J'ai cité ce rêve qui est en effet assez spectaculaire parce qu'il porte assez loin ce qui, je crois, est présent dans tout rêve, mais qui est très difficile à restituer par la parole ou par le souvenir d'abord et par la parole ensuite, à savoir que il me semble que dans tout rêve tel qu'il est éprouvé, enfin on ne sait pas trop ce que c'est un rêve, cet ensemble, il m'arrive quelque chose, je vois, il me semble que dans tout rêve, il y a une part résiduelle de conscience du fait, je suis du côté de Freud là, conscience résiduelle du fait que c'est bien moi qui suis là quand même, actif. Je ne suis pas un spectateur. Alors, bien sûr, il y a des cas où le rêve est vécu, on pourrait dire, d'une façon extraordinairement passive, et d'autres où, au contraire, le rêveur se sent impliqué et, en quelque sorte, actif. Dans le cas du rêve, mais je réponds peut-être mal, hein, dans le cas du rêve de Claire Winnicott, ce qui est spectaculaire, c'est que, qui est un des mystères du couple, peut-être, un des mystères du mariage, quand il s'est réussi, c'est que elle a tellement intégré la parole et la pensée de Donald Winnicott que quand elle le fait parler avec son exigence de vérité à lui, c'est sa propre exigence de vérité qui s'exprime. C'est elle qui ne veut pas être trompée. C'est elle qui veut voir la vérité dans ce qu'elle... Non, mais je vous réponds peut-être totalement à côté. Je suis vraiment désolé.
C'est une forme de rêve lucide, mais qui est masquée, quoi. Puisque, puisque c'est pas elle qui décide d'avoir conscience que c'est un rêve, mais c'est le rêve qui lui apporte cette lucidité-là.
Oui, c'est difficile. Enfin, il faut trouver des mots justes, mais vous pourrez pas dire d'un côté il y a elle et de l'autre côté il y a le rêve, puisque dans le rêve, c'est là que le mot d'altruisation inventé par Maury est tellement intelligent. Dans le rêve, elle prête avec son énergie morale, avec son imagination, elle prête la parole à cet homme mort pour qu'il lui dise ce qu'à la fois elle a peur et elle a envie d'entendre. Alors, si c'est trop compliqué, il faut aller du côté de la psychanalyse, qui est infiniment plus compliqué. Moi, je trouve que c'est pas trop compliqué. Il y a division interne du rêveur, pas simplement en deux, mais en plusieurs. Le rêve n'est pas un milieu homogène, c'est pas une substance homogène. Et le sommeil n'est pas... J'ai envie de vous lire une phrase, encore une phrase.
Allez-y.
Vous êtes sympa. Ouais. Non, mais c'est une phrase de Gaston Bachelard. Ouais, vous êtes vraiment... Il est tolérant, comme mec. Gaston Bachelard, un auteur qu'on ne lit pas beaucoup, mais il commente un rêve de Huysmans, peu importe. Alors il dit, et il se situe par rapport à la psychanalyse, et il avait beaucoup lu la psychanalyse, Gaston Bachelard. Il dit ceci, « Pour le dire en passant, il nous semble que la psychanalyse n'a pas assez considéré ces divers feuillets du rêve. » Elle pose pour le rêve un déterminisme d'ensemble, alors que du seul fait du sommeil, le rêveur plonge à des niveaux très différents, vivant des expériences sensibles qui trouvent bon. Alors, c'est ça qu'il faut déjà comprendre et qui permet d'entrer d'ailleurs en relation avec ce que les recherches neurologiques contemporaines apprennent, à savoir que le sommeil n'est pas une matière compacte, homogène, qu'il a des niveaux, qu'il a des périodes, qu'il a des rythmes, et que dans le rêve, c'est-à-dire ce moment qui dure pas très longtemps visiblement, pour autant qu'on puisse le savoir, dans ce moment, il n'y a pas non plus une homogénéité. Et quand un personnage apparaît dans le rêve, que ce soit moi ou un cheval ou un mort, alors, en effet, je ne suis pas inactif dans ce qui arrive. J'avais envie de dire, pour faire une formule, parce que vous disiez, parlez-nous des morts dans les rêves. Évidemment, depuis toujours, les morts, par exemple, je sais pas, le rêve d'Achille dans l'Iliade où Patrocle lui apparaît, ce rêve génial, Patrocle vient de mourir, il apparaît à Achille qui s'est endormi un instant parce qu'il veut pas ni manger, ni boire, ni dormir, puisque son ami est mort. Il s'endort un instant, il fait comme ça, et immédiatement la figure de Patrocle lui apparaît qui lui dit, en gros, alors tu dors, je suis mort et toi tu dors. C'est merveilleux. Alors, où il y a un rêve que raconte Freud et sur lequel il spécule, c'est un homme, un malheureux qui est dans une pièce, il veille sur le corps de son enfant mort. Et il y a une chandelle qui brûle à côté du cercueil. C'est pas une situation tellement drôle. Et l'homme, à un moment, s'assoupit. Et il entend son fils lui dire, « Père, ne vois-tu pas que je brûle ?» Freud a commenté ça, Lacan, je me souviens d'avoir entendu Lacan commenter ça, il ne savait pas qu'il était mort. Bon, c'est très intelligent, mais voilà ce qu'il y a, c'est que c'est à l'intérieur du père, du dormeur, la conscience d'être celui qu'il est et d'être le père d'un enfant qui est mort n'est pas morte. C'est clair ?
Bonsoir. C'est à nouveau une question adressée à Pierre Pachet. Je voudrais simplement faire allusion à ce que vous disiez tout à l'heure en ce qui concerne justement cette nécessité de recontextualiser le rêve dans le cadre du sommeil et donc d'établir une identité finalement entre le rêveur et le dormeur. Et puisque vous venez de faire allusion à Bachelard, j'aimerais justement m'appuyer sur une de ses œuvres, donc La poétique de la rêverie, dans laquelle il distingue justement rêverie et rêve, et dans laquelle pourtant il y a le terme de rêveur est utilisé de la même manière pour le rêve en tant qu'activité inconsciente, et que rêverie, qui est distinguée, mais finalement de manière, à mon sens, assez floue, puisque c'est justement le sens de ma question, en quoi y a-t-il... comment dire ? En quoi y a-t-il communauté justement entre ce rêveur du sommeil et ce rêveur finalement de la veille voilà.
Je peux lui répondre, monsieur Oui, non, mais c'est un point important. Et là, je m'appuierai même sur des, sur une part, sur des réflexions qui sont dans l'interprétation du rêve de Freud. C'est que, enfin, pour ma part, au terme de 30 ans de lecture, de réflexion et d'expérimentation pour moi-même, je ne suis pas absolument persuadé de la validité d'une séparation trop tranchée entre le rêve et la rêverie. Je veux pas scandaliser, je fais pas ça pour scandaliser, en même temps, je m'en fous si vous êtes scandalisé. Mais, bien sûr, le rêve c'est une chose, on se déshabille, on se met en pyjama ou pas, et puis on dort. Et la rêverie, on marche dans la... Mais il y a une parenté. Et Freud cite un passage d'un roman de Daudet, Le Nabab, qui est absolument merveilleux. C'est un type, il s'appelle Monsieur Joyeuse par hasard. Bon, enfin bref. Il marche dans la rue, et puis il est pris dans ses pensées. Et il s'imagine, il se construit tout un scénario, vous devez vous en souvenir, où, voilà, il y a une voiture qui s'emballe, il sauve la vie d'un enfant, etc. Bon. Eh bien, cette rêverie qui est très proche du fantasme, elle est aussi très proche du rêve. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas, voilà, je suis pas partisan de trop séparer la rêverie du rêve, parce qu'il y a des moments où la rêverie fait que, au milieu de la journée, pendant quelques minutes, on oublie. Parce que ce qui définit pour moi le rêve, c'est une certaine forme d'oubli. C'est pas un oubli complet, j'ai pas complètement oublié tout, mais en gros, quand je dors, j'ai oublié que je dors. Quand je dors, j'ai oublié, je sais plus si j'ai vraiment été élu au Collège de France. Enfin, le rêve est constitué par un certain nombre d'oublis, mais c'est jamais un oubli total. Et la rêverie, dans la journée, par moment, nous conduit à cette forme d'oubli où on est dans la rue, on est dans le bus, et tout d'un coup, on est pris par une aventure dans laquelle on se projette de façon un petit peu puérile et attendrissante. Et à ce moment-là, quelque chose peut se créer du rêve. Si on s'y abandonne trop, alors on s'endort. Mais parce que le rêve est aussi une voie d'entrée dans ça. J'avais une formule que j'ai pas dite sur les morts. Je vais la dire. Ouais. Pourquoi il y a les morts si souvent dans les rêves? Parce que les rêves, on pourrait dire, en utilisant le vocabulaire des lycéens, les rêves, c'est le parloir des morts. C'est là qu'on peut leur parler une dernière fois. Quelque chose s'ouvre et leur présence en nous, la trace qu'ils ont laissée dans notre conscience, de leur personnalité, de leur valeur morale, de leur, eh ben, a le droit de faire, d'apparaître. J'aime bien quand je suis
d'accord. Oui, je voulais dire à Monsieur Pachet que, il n'a pas à se sentir iconoclaste ou révolutionnaire en scandalisant. Ah bon? Alors il faut que je le rapproche plus.
Peut-être pas trop près, justement.
Ah, pas trop près. Non, bon, voilà. D'accord. Voilà. Ça va là? Oui, alors je voulais dire à Monsieur Pachet qu'il ne faut pas qu'il se sente iconoclaste ou révolutionnaire ou défrayant les théories anciennes, parce que des psychanalystes plus récents que Freud ont travaillé beaucoup cette question du rêve et vont tout à fait dans le sens d'expliquer que le rêve nocturne et le rêve diurne sont d'une proximité intense et que la pensée se formule, s'élabore avec la rêverie diurne et que parfois les problèmes compliqués que nous rencontrons dans l'existence et qui nous confrontent à beaucoup de frustrations peuvent parfois s'élaborer grâce au travail du rêve. Alors, par exemple, vous avez Bion qui parle de cela et Maurice Dayan qui a écrit son ouvrage qui s'appelle Le rêve nous pense-t-il.
Y a-t-il une autre question?
Bonsoir. Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt quelques remarques. Alors, je suis un petit peu d'accord lorsque vous dites qu'il y a une part de conscient dans le rêve. en ce sens où c'est quand même une projection de soi. En revanche, d'après mon expérience, je me rappelle d'aucun rêve où est-ce que j'avais à la fois ce regard de me dire « je suis en train de rêver ». Et je trouve que raconter ses rêves, finalement, ça n'a pas grande importance puisque déjà, il arrive souvent qu'au réveil, on ne se souvient pas de suite. Des fois, c'est au cours de la journée, d'un coup, on a des bribes de souvenirs. Et je pense que dès lors qu'on essaye de vouloir raconter un rêve, on se détache en fait de ce rêve dans le sens où je pense que ça appartient vraiment à un autre univers que le langage, et je pense que l'on peut pas réellement, en tout cas soi-même, interpréter ses rêves. En revanche, je suis un petit peu déçue que vous n'ayez pas abordé la question un petit peu que de nombreux psychanalystes, dont Lacan, si je me trompe pas, font la différence entre le différent contenu d'un rêve, à la fois le manifeste et le latent. Donc, si je me trompe pas encore une fois, que l'idée qu'on a nous d'un rêve peut être en fait complètement différent par des symboles ou des images que l'on a ne sont pas forcément en fait représentatives au sens où nous pouvons l'interpréter. Donc, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi je voudrais juste peut-être souligner la diversité, enfin ce que mon approche d'historienne m'apprend sur le 19e siècle, et donc je rappelle que j'ai un peu étudié de 1800 à 1945, c'est la diversité des expériences du rêve et des manières de les raconter. Et bien sûr, le manifeste et le latent, mais... qu'est-ce qu'on fait quand on est historien et qu'on a affaire justement à un rapport des gens au rêve dans lequel les gens ne distinguent pas le manifeste et le latent, hein ? Donc on est là, ou bien on va faire de la psychanalyse rétrospective, et pour moi c'est pas très intéressant personnellement, ou bien on va essayer de comprendre comment les gens... à une certaine époque, au 19e siècle, et c'est un moment, je crois, charnière, essayer de comprendre le rêve. Par exemple, quelque chose... Enfin, vous voyez, donc, et comment aussi certains, bon, parlaient de conscience à l'intérieur du fait de rêver, que d'autres pouvaient interpréter leur rêve à partir de clés des songes. Alors, ça vous... C'est, donc, vous voyez. Et puis après, comment... Certains rêveurs se sont mis à rêver en lisant Freud. Et donc, du coup, en se disant, mais mes rêves, ils veulent dire autre chose que ce qu'ils disent, etc. Hein? Donc, vous voyez, il y a ce qui me paraît très étonnant. Et alors aussi, les tonalités du rêve. On a parlé beaucoup des revenants. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé sur le 19e siècle, c'est aussi que les rêves font rire. Qu'il y a une sorte d'humour du rêve. Et que ça, par exemple... à certains égards, Freud a mis une espèce de chape de plomb sur les rêves de ce point de vue-là, avec son exergue où il dit « je convoque les enfers hein ». Or, en fait, il était aussi conscient que les rêves faisaient rire. Et d'ailleurs, au moment où il publie l'interprétation du rêve, il prépare une collection de mots d'esprit pour écrire le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Donc je crois qu'on a aussi, enfin qu'il faut, qu'il y a différentes tonalités des expériences de rêve. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a des gens, certains de ces savants notent leurs rêves pour en rire. Et je veux dire, c'est pas, ça me paraît tout aussi intéressant que de dire, de dramatiser en quelque sorte sur le rêve. Je crois qu'il faut vraiment être être attentif à la multiplicité. En tout cas, quand on est historien, c'est ce qu'on doit faire, être attentif à la multiplicité des manières de comprendre les rêves et de rêver et d'en rendre compte à autrui, puisque à certains égards, moi, les rêves auxquels j'ai affaire, ce sont des rêves publiés ou bien que j'ai retrouvés dans des manuscrits. Hein, et essayer de comprendre comment, dans quel univers se situaient les gens et dans quelle culture ils se situaient, je pense que c'est important aussi. Hein, que c'est pas seulement qu'il y aurait une sorte de vérité qui nous aurait été révélée et qu'on pourrait rétrospectivement appliquer au passé. En gros, c'est ce que je récuse, ce que je souhaite pas faire. Ça m'intéresse pas de trouver un rêve dans lequel je dirais ah là là, il avait un complexe d'Édipe celui-là. Ça ne m'intéresse pas. Ça, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens comprenaient leurs rêves et comment aussi, d'ailleurs, dans ce contexte-là, il a pu y avoir, aussi naître la psychanalyse. Mais et alors, ce qui est quand même important aussi de dire, c'est que je pense que le fait de dire bon, maintenant c'est fini, les rêves, c'est Freud, etc., c'est très récent en France. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que dans l'entre-deux-guerres, les psychanalystes français, les premiers psychanalystes, jusque dans les années 50, se référaient à Hervé de Saint-Denis, Maury, Delboeuf, etc. Enfin, ces auteurs dont j'ai essayé de refaire un peu l'histoire. Voilà. Donc, c'est simplement pour dire que il faudrait essayer d'être aussi un peu curieux des rêves du passé. C'était ça mon but, au fond. Mon but, ça a été de réveiller une curiosité et de réveiller une histoire française, car on a perdu la mémoire de cette science des rêves française, et je trouve bon que c'est un petit peu dommage.
Petite remarque par rapport à ce que tu dis là. Je crois qu'effectivement, depuis quelques années, on a le sentiment que la science des rêves freudienne, même si ça décline un peu, mais pendant quelques années, ça a été très puissant, avait épuisé, d'une certaine manière, la question du rêve, la résumait avec cette importante bibliographie, avec ce qu'il apportait. Et je crois que ton ouvrage apporte un éclairage très significatif pour montrer que, bien évidemment, Freud n'a pas épuisé la question. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que d'une certaine manière, Freud n'a jamais eu, même s'il le dit, il n'a pas vraiment le rêve comme objet. Son objet, c'est l'inconscient. Et je crois que c'est aussi pour cela que, d'une certaine manière, l'interprétation des rêves freudiennes dit moins sur le rêve qu'elle ne cherche à dire sur l'inconscient, puisque c'est vraiment ça son objet. Alors, bien sûr, on peut se dire qu'elle dit n'importe quoi sur l'inconscient et qu'il se trompe là-dedans. C'est pas impossible. N'empêche que, et c'est toute la difficulté chez Freud, c'est-à-dire qu'il oscille tout le temps quand même entre ces deux positions. Je ne m'occupe pas du rêve mais de l'inconscient, mais en même temps je vais vous dire ce qu'est le rêve pour de vrai. Pareil quand il va faire une excursion dans le champ ethnologique, je vous dis pas nécessairement que les primitifs y pensent comme ça, mais n'empêche que c'est comme ça qu'ils pensent. Alors il y a toute cette complexité de l'écriture freudienne, n'empêche que même quand il est sur Totem et Tabou ou dans l'avenir d'une illusion, sa question n'est pas la société, n'est pas le primitif, c'est toujours l'inconscient, c'est toujours la réalité psychique. Et dans le rêve, une fois de plus, c'est ce qu'on appellera après ces phénomènes élémentaires ou tout ce qui peut apparaître de résidus de l'inconscient. C'est pas, même si tu lui offres cette place, c'est peut-être pas un penseur du rêve, quoi, finalement.
Peut-être. Oui, je serais assez d'accord avec ton analyse, même si quand même il s'est passionné pour les rêves. Il s'est passionné pour ses propres rêves. Mais comme tu le dis, peut-être que le rêve est, je dirais pas un prétexte, ce serait un outil, oui, peut-être. Et d'ailleurs, assez intéressant, c'est qu'en fait, il a plus, même s'il a augmenté, il a vécu avec ce livre toute sa vie, hein. Avec les différentes éditions. Mais en fait, il n'a pas republié tellement sur le rêve après. Hein? Un petit peu. Oui, bien sûr, quand il a essayé de réviser sa conception après la guerre de 14, notamment. Enfin bon, il a écrit sur les rêves d'en haut et d'en bas, etc. Mais il me semble pas qu'il ait cherché à refaire un autre grand livre sur les rêves, c'est ça que je voulais dire. Plutôt ça, hein,
Là, on ouvre une question qui est vraiment très importante, qui est celle de la lecture de Freud. Elle est importante parce que dans notre pays, moi je suis vieux, donc cette histoire, je l'ai vécue en grande partie. La place de Freud et de son enseignement tel qu'il s'est cristallisé à partir de la fin du 19e, des premières années du 20e siècle, a pris une place très importante, soit chez les gens pour qui l'analyse joue un rôle très important parce qu'ils sont eux-mêmes en analyse, voire analyse, soit parce que ça s'est répandu dans la conscience publique d'une façon qui devient presque inévitable. Et je dois avouer, c'est à la fois présomptueux et puis naïf que, en pensant comme je le fais, je sens bien que si j'étais lu et écouté, comme je le suis ce soir pendant quelques minutes, je suis en train de dérober à beaucoup de gens quelque chose qui est essentiel dans leur pensée, dans leur façon de vivre. J'ai entendu quand vous disiez tout à l'heure, oui, mais vous ne nous parlez pas du contenu manifeste et du contenu latent, du rêve. Bah oui, parce que, évidemment que j'en parle pas, parce que je suis en train de dire qu'il n'y a pas de contenu latent du rêve. Le rêve n'est qu'une manifestation, vous voyez. Alors, en même temps, je me dis, mais t'es un vrai salaud, comment tu peux dire des trucs pareils, alors? Oui, c'est dégueulasse. Comment c'est du...
Moi, donc, je vous disais, bien sûr, les avis divergent, mais on ne peut pas nier la grosse part d'inconscient qu'il y a dans le rêve. Oui, puisque...
On peut pas nier la grosse part
de l'inconscient, oui, qu'occupe, enfin, quand même, dans les rêves, puisque, enfin, c'est quelque chose, quand même, qui nous échappe. On est même surpris, parfois, de rêver de telle ou telle chose qui ne vont pas forcément... en symbiose avec soit notre personnalité ou notre vie ou peu importe. Et aussi, enfin, ce qui m'a un petit peu, enfin, non pas que je suis entièrement pas d'accord avec vous, mais ce qui m'a un petit peu frappé, c'est le fait que vous relatez donc des personnes qui décrivent leurs rêves en disant qu'ils ont conscience d'être dans leur rêve. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement d'avoir conscience que la voiture qui me poursuit. Enfin, non, c'est un rêve. Enfin, jamais. J'y crois vraiment dur comme fer. Et c'est en fait au moment où on arrive au réveil finalement que l'on s'en aperçoit. Et donc, et en plus, voilà. Enfin, je reviens un peu sur ce que je disais. Pour ma part, ça m'arrive très souvent de ne pas me rappeler de suite, mais une heure, deux heures après, je me dis tiens, et c'est là qu'en fait on reconstitue son rêve. Et je pense que de vouloir le raconter de suite, quelque part, on ne peut que s'en éloigner, puisque on peut pas. Enfin, encore une fois, ça fait partie pour moi de l'inconscient et on peut pas le nommer, si je peux dire, on peut si facilement en fait.
Même si ça fait partie de l'inconscient, c'est pas forcé que ça s'y réduise.
Non, bien sûr. Là, je suis d'accord aussi.
Mais sur cette question, justement, c'est une question qui s'est posée au 19e siècle. La question que vous posez, il y a un auteur qui s'appelait Marcel Foucault. Alors, j'en ai parlé dans mon livre, je faisais bien attention à mettre Marcel et non pas Foucault, enfin, parce que sinon, on aurait pensé que c'était Michel Foucault. Et il a posé exactement la question que vous posez. C'est-à-dire qu'on s'est dit comment restituer le rêve, et quelquefois on le retrouve mieux après, on le reconstruit mieux après, etc. Donc vous voyez, toutes ces questions-là, elles sont, comment dire, elles se posent déjà. Hein. C'est pas des. Alors on les redécouvre à chaque fois. Et Freud avait été un lecteur de tous ces, notamment cette question de la reconstruction du rêve. On la trouvait dans la revue philosophique. Donc, et il cite très abondamment ce type d'auteur. Et il se pose la question justement de quel peut être le bon récit de rêve. Est-ce qu'il ne faut pas décomposer le rêve, par exemple? Cette question de décomposer le rêve. Donc un usage du rêve où on le décompose, eh bien, elle s'était déjà posée dans la revue philosophique en 1895, vous voyez, donc un tout petit peu avant. Et Freud les cite, tous ces gens-là, et il se passionne pour ce débat. Donc vous voyez, c'est pas ce que j'essaie de montrer, c'est que il y a différentes sortes de rêves, et peut-être, d'ailleurs, pourrait-on opposer au rêve avec conscience le rêve automatique à la Maury. Maury insiste aussi sur le fait que le rêveur est en quelque sorte entraîné dans un automatisme. Alors il n'emploie pas le terme d'inconscient, et c'est différent bien sûr de parler d'automatisme, mais c'est bien cette même idée qu'on est en quelque sorte pris dans son rêve et qu'on n'en est pas conscient et qu'on en est surpris et qu'on en a honte et qu'on peut au contraire en rire et trouver que c'est complètement cocasse, enfin toute une série de choses, vous voyez. Donc voilà.
Excuse-moi.
Non, ça suffit.
Une dernière question, en tout cas une. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir quel crédit accorder, selon vous, aux nouvelles théories des neurosciences que je connais très mal par ailleurs, mais dont j'ai retenu une chose, qui serait que le rêve, finalement, ne serait pas ce récit en images qu'on a l'impression de vivre en dormant, enfin de ressentir, mais ce serait des entités synesthésiques comme une personne dont on se souvient, ou une odeur, un texte, peu importe, que l'on reformulerait et que l'on mettrait en articulation en récit au moment du réveil. Et dans cette part de, dans cette dimension, l'observation de l'activité du rêveur a une importance accrue, à mon sens, puisque ce serait la manière de créer, de faire du lien entre des choses qui n'en ont pas apparemment et qui constituent l'incohérence du rêve.
Oui, je pense que c'est une question, je suis désolée, je reviens toujours, mais en fait on voit qu'il y a des questions récurrentes quand même, hein. C'est une question qui se posait par exemple à quelqu'un comme Edmond Gobelot, qu'on connaît comme un historien des sciences et sociologue, et qui disait au fond on n'a jamais accès aux rêves, on n'a jamais accès qu'au récit, au réveil, donc à quelque chose qui serait entre les deux. Et je crois que à la fin du 19e siècle on s'interroge de plus en plus sur l'aspect émotif, affectif du rêve et aux affects dans le rêve, vous voyez. Donc on n'a pas cessé de le faire. On s'interroge, par exemple, alors un autre auteur qu'on connaît pas du tout pour ça, c'est Bria Savarin, qui est connu comme un gastronome, mais qui a écrit sur les rêves, et il se posait la question, est-ce qu'on peut avoir du goût en rêve? Et il trouvait que non, que il valait mieux manger pour de vrai, si j'ose dire. Mais par ailleurs, il se posait la question des sensations en rêve. Qu'est-ce qui se passe? Et des vécus affectifs, et il disait que il avait ressenti en rêve des sensations extraordinaires, vous voyez. Donc, il y a aussi cette question des affects et des sensations. Et il y a aussi quand même ce problème qui se pose toujours dans les laboratoires du sommeil à l'heure actuelle. Et j'ai lu récemment des articles là-dessus. Alors, je suis pas une spécialiste moi non plus, mais c'est que tout repose sur le témoignage du dormeur. On n'a pas d'autre accès que le témoignage du dormeur. D'où des questions d'ailleurs qui se posent très précisément quand on fait dormir des gens en laboratoire. Est-ce que c'est les mêmes rêves que quand ils dorment chez eux, par exemple? Et voilà, par exemple.
L'imagerie cérébrale récente a quand même montré qu'il y avait la possibilité je ne sais plus avec quel type de caméra, bétatron et autres, d'avoir des images qui apparaissent pendant le rêve, très très réduites, mais bon, où le rêveur raconte qu'il a, je ne sais pas, vu un animal, et vous avez quand même une image qui peut être retranscrite par ces systèmes informatiques très sophistiqués. Donc voilà, c'est moi je suis convaincu, j'ai une foi mais totale dans la science, et je suis convaincu que plus tard on nous dira exactement la même chose de la pensée. Et on pourra dire voilà, c'est des réactions chimiques, c'est sans, il y a pas d'image, il y a pas de, on pense quand même. Non? Enfin, il me semble, moi je ne sens pas que des mouvements de molécules. Alors quand ça arrive, c'est plus grave quoi.
Je peux ajouter un mot. Je voudrais ajouter un mot parce que là, on touche vraiment à quelque chose qui moi aussi me passionne. C'est que c'est pas simplement la différence entre le rêve tel qu'il aurait eu lieu à un moment donné pour le dormeur et le rêve tel qu'il est raconté. C'est que dans l'expérience même du rêve, si elle existe, qui est certainement très fragile, assez courte, Ce qu'on peut suspecter, mais ça fait très longtemps qu'on le suspecte, c'est qu'il y a en effet, dans l'activité cérébrale, des moments où des images se forment, des embryons de mots, et que la conscience, ou ce qui reste de la conscience, que ce soit au moment du réveil, ou que ce soit à l'intérieur du sommeil, a une aptitude phénoménale à constituer à partir de cela un tissu éventuellement narratif ou dramatique. Il y a déjà ça dans Lucrèce, vous voyez, Lucrèce, le poète romain, il dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a des images qui apparaissent, et notre pensée fabrique à partir de cela, on pourrait dire, l'équivalent d'un film. Mais au départ, il n'y a que des phosphènes, des apparitions, des semblants de bruit, des semblants de paroles, des émotions, parce qu'il y a des émotions qui sont extrêmement... Et notre conscience, qui est un mécanisme d'une sophistication inouïe, dont nous n'utilisons qu'un dixième, elle a cette aptitude, dans le moment, c'est un peu ce qu'il y a dans le fameux rêve de la guillotine de Maurice, à constituer à partir de cela une dramaturgie, un scénario, et une situation, voire un récit complet, quelquefois, avec lequel on s'éblouit soi-même ou on rassasie son psychanalyste. Mais en réalité, il y a bien une fabrication après coup, et pas sur le moment même, en quelque sorte, du surgissement de ces phénomènes mentaux.
On va prendre peut-être la toute dernière question.
Bonsoir, je ne sais pas si c'est peut-être une question trop personnelle, mais moi j'intéresserais beaucoup comment les rêves que vous faites ont une importance dans votre vie et comment vous faites pour vous souvenir de votre rêve ou de vos rêves et quelle stratégie vous mettez quelle stratégie pour avoir des rêves lucides.
C'est à moi. Moi je veux dire, il y a un truc très triste, c'est qu'en vieillissant on rêve moins. On se souvient moins de ses rêves, ils deviennent moins vivaces. On perd d'autres trucs, mais ça, on le perd en particulier. Je trouve que c'est... Donc, je peux vous parler au passé, quoi, à l'imparfait. Oui, à l'imparfait. Plus, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, plus on s'intéresse aux rêves, plus on s'en souvient bien. Je dirais même plus que plus on s'en souvient, plus on les vit avec intensité dans le bref moment où on les vit. C'est pour ça que les gens qui sont en analyse, bah ils rêvent, quoi. C'est évident parce que ils vont pas se présenter chez l'analyste avec rien à dire. Donc leur activité mentale leur fournit, parce que leur activité mentale, c'est eux, elle est complice, on est complice de soi-même. On est complice de soi-même dans le rêve, comme on l'est dans les autres. Alors, lorsque on s'y intéresse, ça vient, si, bon, moi, ça va, je m'y intéresse moins, j'ai d'autres trucs dans la vie, mais quand on s'y intéresse, ça vient très très bien, parce que, précisément, ils viennent pas, les rêves, ils viennent pas d'ailleurs, ils viennent pas de Hollywood, ils viennent de moi-même. Et enfin, si vous voulez, je pourrais vous donner des leçons particulières sur ce plan.
Oui, alors, je pense que Hervé de Saint-Denis, d'ailleurs, lui-même, il parle d'une expérience échue, car il dit qu'il ne rêve plus beaucoup lucidement. C'est assez intéressant de voir qu'il écrit son livre pour clore avec une période de rêve lucide. Alors moi, ça m'intéresse pas tellement de rêver lucidement, je dois dire. Et j'ai eu l'impression, alors c'est ici peut-être aussi une différence entre les hommes et les femmes, j'ai eu l'impression qu'au XIXe siècle, il y avait une volonté de contrôler ses rêves qui était très masculine. Et que chez les femmes, c'était très différent. En tous les cas, le type de description qu'on peut avoir. Je parle ici du 19e siècle. Et à certains égards, peut-être que je suis une femme du 19e de ce point de vue-là. Parce que, en fait, j'aime bien me souvenir de mes rêves, mais en même temps, bon, j'ai pas envie de les noter. J'ai pas envie de tenir une comptabilité de moi-même. J'ai envie plutôt de collectionner les rêves du 19e, alors c'est peut-être par délégation, mais je crois aussi qu'il faudrait s'interroger sur la différence entre hommes et femmes là-dessus, qui serait sans doute assez intéressante.
Voilà, je crois, une très belle conclusion pour un prochain débat. Hein. Vous serez de nouveau invités, j'imagine. Je voudrais remercier Jacqueline Carrois et Pierre Pachet, et puis vous remercier la BPI, et puis les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà, merci.
Merci à vous.